Bonjour à tous. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Être un témoin savoureux et lumineux ». Être un témoin savoureux et lumineux. Évangélisation. Un mot qu'on aime bien, mais dont la forme peut différer d'un individu à l'autre. Pour certains, l'évangélisation, c'est d'aller mettre des tracts dans la boîte aux lettres ou de tenir un stand au marché. Pour d'autres, c'est de faire des concerts ou bien d'interpeller les gens dans le RER en présentant l'évangile d'une voix forte. On a tous vu ce type de vidéo. Pour d'autres encore, c'est de poster sur des réseaux sociaux de courtes vidéos pour semer ça et là des idées. Si ces modèles peuvent produire une réflexion chez celui qui reçoit, force est de constater que tout le monde ne se sent pas à l'aise avec ce type de méthode. Waouh, ils sont courageux ceux qui le font, mais moi, ça, je le ferai jamais. Que penser de celui qui est introverti, terrorisé à l'idée de s'adresser à un inconnu ? Peut-être que lui ne peut donc pas évangéliser. Que penser de celle qui culpabilise de ne pas avoir ouvert la bouche lorsque des gens parlaient de Dieu autour d'elle ? L'évangélisation peut s'avérer difficile, voire culpabilisante. En fait, ce n'est pas l'évangélisation en tant que telle, c'est la forme qu'on lui donne. Et ce matin, je vais essayer de nous encourager, de nous stimuler à partir d'un texte très connu de l'Évangile, le sel de la terre et la lumière du monde. Nous allons nous plonger dans le fameux sermon sur la montagne, le premier des cinq grands discours de Jésus rapportés dans l'Évangile de Matthieu. Le Seigneur commence son discours par un autre texte très connu, les fameuses béatitudes. Heureux ceux qui tatati tatata, car tatati tatata. Vous voyez ce que sont les béatitudes. On en trouve ailleurs. Le psaume 1 comprend une béatitude, etc. En exposant ainsi ceux qui recevront le bonheur, Jésus dresse le portrait du croyant. Du croyant lambda, si je puis dire, mais en tout cas, on peut se retrouver un peu dans plusieurs de ces béatitudes. Le disciple du Christ, c'est celui qui est appelé à ressembler au Seigneur. C'est celui qui est doux et humble de cœur. C'est celui qui est dépendant du Père, qui pleure sur son péché, qui témoigne de la bonté et qui procure la paix. Autrement dit, les disciples, ce sont ceux qui attendent tout de Dieu. Ce sont ceux qui attendent tout de Dieu. Et le bonheur leur est réservé dans les cieux. C'est une perspective que le monde, lui, n'a pas. Lui qui pense pouvoir vivre le bonheur ici-bas. Pour les incroyants, le monde est donc une forme imparfaite de paradis à cause de quelque chose qui vient de la Bible. La grâce commune. Pourquoi je dis que pour eux, c'est déjà une forme de paradis ? Parce qu'ils n'auront pas mieux après. Le mieux pour eux, le maximum du mieux, il est déjà là. L'après, ce sera le pire. Pour le chrétien, les choses sont tout autres. Le monde ici-bas ne dure qu'un temps. Et même si nous pouvons déjà trouver du bonheur, et de la joie, et heureusement me direz-vous, nos yeux sont tournés vers quelque chose de plus grand et d'éternel, la vie dans le royaume de Dieu, aux côtés de notre Seigneur. J'espère en tout cas que c'est vers ça que se portent vos regards à long terme. Ce descriptif est important car il constitue la base du texte que nous allons lire. Et je nous pose deux questions. C'est quoi être sel de la terre ? Et c'est quoi être lumière du monde ? Alors peut-être que ce sera pour vous une énième prédication sur le sujet que vous avez déjà entendu, mais même si c'est le cas, eh bien ce n'est pas grave, car parfois ça fait du bien de répéter des choses que l'on connaît, des choses essentielles. C'est quoi être sel de la terre ? C'est quoi être la lumière du monde ? Et je nous invite donc à regarder notre premier texte, notre premier verset, qui se situe évidemment dans Matthieu chapitre 5, et on va lire ensemble le verset 13. Donc c'est Jésus qui parle, hein. Il parle ici à la foule qui est sur le sermon sur la montagne, qui comprend donc des disciples et simplement des curieux. « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » Un verset, déjà on va s'arrêter là, parce qu'il y a des choses à dire. Le « vous », ici, indique que notre lecture n'est pas dissociable des béatitudes qui précèdent. C'est pourquoi il était nécessaire de parler un peu de ces heureux. Et donc je vais revenir un petit peu en arrière et je vais lire les béatitudes. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront ou vous persécuteront, lorsqu'ils répandront sur vous toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Voir le reportage de France 2 cette semaine. C'est marrant, hein. Je m'arrête, j'avais pas prévu, mais j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, de pasteurs, de chrétiens en tout genre. C'est inadmissible, c'est une honte. Et c'est vrai. Mais quand, en préparant cette prédication, le reportage n'avait pas eu lieu, hein. J'ai lu « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Eh bien moi, en fait, ce reportage, il m'a rendu heureux. Je dis « Ah, voilà !» On y est, on le vit. Heureux serez-vous. Je ferme la parenthèse. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. En fait, il ne s'agit pas d'être heureux à cause du reportage. Il s'agit d'être heureux parce que nous, on regarde ailleurs. Ouais, bon, faites votre truc. Nous, l'espérance. Ça, c'est plus intéressant quand même, hein. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Les béatitudes. Le « vous » correspond, donc dans notre verset 13, à la description de disciples en mouvement, des disciples qui sont actifs, acteurs, dans le monde. Ce sont ceux qui sont prêts à recevoir le royaume de Dieu et à vivre de sa justice. Là encore, un autre verset du Sermon sur la montagne. Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Il est rattaché à une image identitaire claire, mais qui interpelle, celle d'être le sel de la terre. Alors pour bien comprendre cette allégorie, il faut réfléchir à la fonction du sel. Et cela a donné lieu à de nombreuses interprétations qui ont été données. Mais je crois qu'il faut éviter de s'éparpiller et d'aller trop loin dans les explications. Pourquoi ? Parce que je crois que le texte est simple. Ça ne sert à rien de chercher parfois de compliqué, de qu'est-ce qu'il peut y avoir, alors qu'en fait, c'est clair. Le sel sert à donner du goût et à conserver. Il est très utile pour l'humanité. Le fait qu'il préserve de la corruption, ce qui est pur, est évocateur, je le crois. avoir du sel en nous-mêmes, c'est le fait qu'aucun élément corrupteur ne puisse agir. Que ce soit notre nature, pécheur en nous, ou le monde qui nous environne. Avoir du sel, c'est quelque part se protéger de cette corruption. Si l'on considère la corruption que le monde peut exercer sur le croyant, alors il est évident que celui qui se mêle à notre société décadente perd de sa saveur. En fait, son témoignage s'atténue. On y ajoute de l'eau, du sucre, on édulcore le témoignage. Car le sel ne communique pas la pureté à ce qui est impur. Et c'est là que l'allégorie du Christ, elle prend tout son sens. Avec quoi salera-t-on le sel qui a perdu de sa saveur ? En fait, il n'existe aucun moyen de restituer au sel son vrai goût naturel. Une fois qu'il a perdu sa saveur, il ne sert plus à rien qu'à être foulé aux pieds. Alors le savoyard que je suis vous dira « Oui, mais même ça, on l'utilise hein, pour saler les routes quand il y a de la neige. » Ce n'était pas le sens là, évidemment. Mais il ne sert plus qu'à ça, à rien d'autre, qu'à être foulé aux pieds, réduit à rien. Considérons maintenant le sens inverse. On a vu le monde sur le croyant, mais maintenant, ce que le croyant doit exercer en faveur du monde. En fait, le croyant, il ajoute de la saveur à la société humaine. Il freine la décomposition morale. Il stimule l'envie d'autrui de posséder la justice, dont il était question d'ailleurs, si vous avez été attentif, dans les Béatitudes. Autrement dit, nous avons tout à perdre à nous mêler au monde, mais celui-ci a tout à gagner à avoir des chrétiens savoureux qui l'impactent réellement. Le disciple est investi d'une grande mission, être sel de la terre, en vivant les vertus énumérées dans les Béatitudes et selon les autres principes du Sermon sur la montagne. Car oui, le Sermon sur la montagne, ça ne reste pas qu'au chapitre 5. Ça fait chapitre 6 et chapitre 7. Ce n'est pas simple de vivre l'Évangile. Ce n'est pas simple d'avoir du goût. Mais ceux qui tiennent en honneur le nom de Jésus et qui sont méprisés du monde sont les seuls à avoir de la saveur pour le Seigneur. Un commentateur que je lisais pour préparer le message, il veut plus. Ah si, écrivait ceci. Dieu aime à goûter dans les siens quelque chose de ce qu'il a pu apprécier dans la vie de son fils bien-aimé. Dieu aime à goûter dans les siens quelque chose de ce qu'il a pu apprécier dans la vie de son fils bien-aimé. Quelle saveur avons-nous pour Dieu ? Quelle saveur as-tu ? Pour Dieu. Quelle saveur avons-nous pour ce monde ? Quelle saveur as-tu pour ce monde ? Si nous sommes insipides, alors nous le laisserons indifférent et nous ne serons pas de vrais témoins. L'apôtre Paul, en Colossiens, écrit ceci : Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. La fin du verset 13 de notre texte sonne comme un avertissement. S'il n'a plus de goût, il ne sert plus à rien, il est jeté dehors et piétiné. En fait, ça engage notre responsabilité, tant collective qu'individuelle. Si nous manquons à notre mission, les hommes fouleront aux pieds notre témoignage, car le monde n'a que mépris pour un chrétien inconséquent. On a déjà entendu ça, hein. Oh, c'est ça être chrétien. Bah, dis donc, il y a dû laisser aller, hein. Nous, on croyait qu'être chrétien, il y avait des valeurs, il y avait des trucs. Puis certaines églises, d'ailleurs, hein, vont dans ce sens. Elles s'ouvrent au monde. Elles prennent finalement des choses du monde, de la société, pour les incorporer à elles-mêmes. Et c'est comme ça que ce sont des églises qui perdent leur saveur. D'ailleurs, peut-on encore les appeler des églises ? Je pose la question. Oui. Ce qui semble impossible, le fait que le sel ne soit plus salé, en fait, n'est pas exclu. L'image du sel nous invite donc à considérer le portrait des béatitudes comme un portrait évolutif, comme quelque chose que l'on peut être, que l'on peut cesser d'être, mais qu'on peut également, parce que je suis optimiste, redevenir, avoir du goût. Maintenant, c'est quoi être lumière ? Et lisons la suite. Matthieu 5, versets 14 à 7, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Après l'image du sel, Jésus identifie également les chrétiens à la lumière du monde. Alors si le message n'est pas différent de l'image du sel, celle-ci elle apporte quelques précisions. Le sel, sale par nature, et la lumière, elle est claire par nature. Si le sel ne sale plus, alors il ne sert plus à rien. Si la lumière n'éclaire plus, alors elle ne sert plus à rien également. À l'instar de l'image précédente, nous allons nous arrêter sur l'aspect personnel de cette allégorie, puis nous considérerons le rayonnement de la lumière. Paradoxalement, le Nouveau Testament nous donne l'identité de la lumière. C'est Jésus-Christ. Matthieu 8, 18, « Moi, je suis la lumière du monde », donc c'est Jésus qui parle, hein, évidemment. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et Paul nous dit que les chrétiens appartiennent à la lumière. Éphésiens 5, 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. » Il y a aussi un Thessaloniciens 5, 5 que je n'ai pas mis. Et les chrétiens brillent dans le monde. Philippiens 2, 15 et suite. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Alors, comment comprendre ce que dit le Seigneur lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde » ? En fait, tout simplement parce que Jésus est la source lumineuse et les chrétiens le reflet de sa lumière. Notre rôle est de briller, non pas nous-mêmes, mais de briller la lumière du Christ, tout comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Et c'est super, parce que ça nous évite de tomber dans le piège de l'orgueil, mais au contraire, d'attribuer toute la gloire à notre Père céleste. Le verset 16. Ensuite, de quoi parle-t-on ? Le but de la lumière est qu'elle brille devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que nous faisons. Verset 16. L'effet est bénéfique et il est visible. Non seulement pour nous les disciples, mais pour tous les êtres humains. Si on rapporte le bien que nous faisons aux béatitudes qui précèdent, on comprend qu'on ne parle pas strictement d'action, mais qu'on parle d'attitude. L'humilité spirituelle, la compassion, la douceur, la bonté, la paix, la pureté de cœur, la justice. Et ça, c'est que pour les béatitudes. Parce que dans la suite de notre texte, Jésus en donne d'autres. La réconciliation, la pureté du regard, le renoncement au divorce, la vérité, la non-résistance et l'amour des ennemis. Le chrétien n'est un vrai témoin que si son être intérieur est plein de lumière. Mettre la lumière sous le boisseau signifie symboliquement négliger l'enseignement de la parole de Dieu au profit des affaires de la vie. Là encore, c'est un avertissement, car le monde n'a que mépris pour un chrétien inconséquent. Mais une vie qui reflète Christ exerce un attrait plus fort que le plus éloquent des discours. Vous savez, on entend souvent « oui, c'est des paroles, mais nous, ce qui nous marque, c'est les actes ». Eh bien oui, c'est vrai aussi. Je ne dis pas que le discours est inutile, mais je dis que parfois l'attitude, les valeurs, elles ont plus de poids encore. N'oublions pas que l'objectif qui est la vue de ces attitudes pour qu'elles conduisent au Père. Considérons maintenant le rayonnement de cette lumière, qui en bénéficie et comment. Qui en bénéficie et comment? Alors, on va suivre un peu à la manière géographique du livre des Actes avec l'ouverture du salut. Vous savez, vous irez d'abord dans la Judée, en Samarie, puis au reste du monde. Ben, on va faire un peu pareil, on va copier, hop, pour savoir jusqu'à quel niveau on témoigne. Le premier, c'est la maison. Ah oui, on croit souvent qu'évangéliser, c'est pour l'extérieur. Mais ça commence déjà chez soi. La lumière du croyant est, lui, en premier lieu, dans sa propre maison, pour sa famille. Je pense là, par exemple, aux parents pour les enfants qui cherchent le Seigneur ou qui ne sont pas encore à lui. Le premier lieu où on voit la lumière, c'est là. Quand j'étais plus jeune et que j'allais dans une famille chrétienne, je retrouvais pas mal de similitudes. Alors, je ne sais pas si on en trouve encore, mais ces fameux écriteaux, vous savez, « Jésus bénit ce foyer » ou « Ma maison et moi serviront l'Éternel », ça, on le voyait partout. Mais surtout, on voyait des attitudes et des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Alors oui, de l'amour, évidemment, hein, mais ce qui donne à Dieu une place toute particulière, ça se ressent, ça se voit. Le Seigneur est présent dans le foyer, ne serait-ce que par les enfants de Dieu qui le reflètent. On retrouve les attitudes que j'ai évoquées en parlant du sel. On trouve aussi des valeurs qui se perdent dans notre société. La famille, le couple, le mariage, l'engagement, etc. On trouve aussi de la prière, de la lecture de la Bible, de la confiance en Dieu. En fait, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que les familles chrétiennes sont parfaites. Vous l'aurez compris, elles ont des faiblesses. Certaines ont souffert et souffrent encore aujourd'hui. On doit d'ailleurs prêter une attention toute particulière à nos maisons pour que les ténèbres du monde ne passent jamais le seuil, qu'ils restent dehors. Mais c'est là, premièrement, que l'on doit pouvoir être ébloui par le reflet de la lumière divine. On élargit un peu aux invités. À la manière de l'ouverture du salut dans le livre des Actes, on élargit le champ d'éclairage. C'est l'évangéliste Luc qui rapporte dans son récit parallèle la pensée suivante, « Afin que ceux qui entrent voient la lumière », Luc 8,16. Ça pose la question, quelle impression nos visiteurs retirent-ils de nos maisons lorsqu'ils y entrent? Et à plus forte raison, lorsqu'ils y séjournent. Alors, chez mes parents, les invités étaient priés de respecter les règles, y compris religieuses, que ça leur plaise ou non. Par exemple, quand on avait des invités, même non-croyants, obligatoirement à table, on rendait grâce au Seigneur avant de manger. Ça paraît rien, un détail anodin. Mais pour ceux qui voient, ça dit quelque chose. Ah, marrant, nous on ne remercie pas, on remercie peut-être le supermarché, mais eux, ils remercient quelqu'un d'autre. Ils ont une autre considération. Dans les invités, on peut classer nos proches, la famille non croyante et même les amis qui ne partagent pas nos convictions. Enfin, pour l'instant, j'espère. Cette réflexion, elle est aussi valable pour l'Église. Car l'Église est un point de repère pour le monde qui nous entoure. Ça arrive parfois, hein, quand des gens ont des questions un peu existentielles. Bon, je sors la carte, l'Église la plus proche, elle est où ? Eh bien, je vais y aller. Ils y viennent, il y a de l'attente. On veut voir des choses. Ceux qui viennent en ces lieux, ceux qui viennent à l'église de Chambourcy, est-ce qu'ils trouvent la lumière ? C'est une question qu'on doit se poser. Alors, moi, je le crois, mais toujours, on ne doit pas rester sur des acquis. On élargit encore. On a fait la maison, on a élargi aux invités, toutes sortes d'invités. Maintenant, on va jusqu'au monde entier. Parce que l'appel, elle a une dimension universelle. Celle de la terre, lumière du monde. La lumière, elle se voit à travers ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, ces bonnes œuvres, elles sont d'abord d'ordre moral, les vertus actives pour se redirer du mal et faire le bien. Mais ensuite, elles sont quand même d'ordre pratique, en prenant soin des autres, y compris de ceux qui ne nous aiment pas, comme le Seigneur l'a fait. Vous savez, ces fameuses actions et ces valeurs qui créent le « pourquoi ?» Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu es si différent des autres ? Il y a quoi derrière ? La réponse est pour que ceux qui les observent puissent remonter à la source, pour que la gloire en revienne au Père. En conclusion, nous sommes porteurs de la vie du royaume. Nous avons ensemble un rôle à jouer dans le monde qui nous entoure. C'est une vocation commune, individuelle et commune. On la partage tous. C'est pour ça que c'est une mission de l'Église également. Nous sommes appelés à l'ouverture. Nous sommes appelés à être visibles. C'est un appel non seulement à être, identité, vous êtes, mais à agir également, à annoncer une espérance, une guérison et un bonheur réel. Les images du sel et de la lumière nous donnent une identité et une vocation qui sont distinctes du reste du monde, mais qui sont aussi en rapport avec le monde. C'est le fameux « nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes bien dans le monde ». Alors, tant que nous y sommes, soyons sel et soyons lumière. Et non, ce n'est pas du spectaculaire dont il est question, mais bien de l'ordinaire de nos vies. L'Évangile vécu dans tous les aspects, et c'est là le plus grand témoignage. Être sel et lumière, ce n'est pas seulement qu'à certains moments, c'est tout le temps. L'évangélisation ne consiste pas uniquement en des épisodes spécifiques, forts, où on met le paquet. Vous savez, ces fameuses journées ou week-ends d'évangélisation, on dit là, on va vraiment être focus dessus, on va faire que ça, et on va vraiment... Ça, c'est pas que ça, l'évangélisation. L'évangélisation, c'est tous les jours que nous sommes appelés à être sel et lumière, dans notre quotidien, du réveil à la maison, y compris jusqu'au travail, avec nos collègues à la machine à café. Même ceux qui sont pénibles. À la maison, avec notre entourage, au travail avec les collègues, ou quand on va au sport, ou alors pour les plus jeunes, quand on va en cours, etc., etc. C'est partout qu'on a du goût et qu'on est lumineux. C'est pas seulement à certains moments. Est-ce que nous sommes simplement des êtres comme les autres, un être humain dans le monde, comme tout à chacun ? Ou est-ce qu'on a quelque chose en plus ? Quelque chose qui a du goût, quelque chose qui se voit, quelque chose qu'on ne cherche pas à cacher par honte, bien au contraire, quelque chose dont on est fier. Ah, vous avez vu le reportage sur France 2 ? Ouais, j'en fais partie. Et je suis content d'en faire partie. L'évangélisation, elle commence là, tous les jours, tout le temps. Disclaimer, hein, le reportage, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas voulu le regarder. Je savais très bien à quoi m'en tenir. Je dis, bon, de toute façon, ils vont sortir que les dossiers, que ce qui est mauvais, et puis tout ce qui est bon, ils vont, parce que ça fait, ça marche pas, ça ne fait pas le buzz. On veut du sans-sas. Je ferme. L'évangélisation, elle commence là, tous les jours, tout le temps. Un témoin de l'évangile de Jésus-Christ, seul moyen de salut, seul moyen de bonheur durable, voilà ce que tu es. C'est une mission que l'on partage tous, un but commun qui n'a pas besoin d'être calculé. Pourquoi ? Car il découle de notre identité. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Amen.